Vous écoutez RTL.
11h et presque 4 minutes sur RTL. C'est l'heure de retrouver Stéphane Bern à la bonne heure.
Bonjour. Anne. Et on retrouve Anne Luena Family.
À tout à l'heure.
Pour faire un nouveau point sur l'actualité. Mais c'est l'heure de la bonne heure avec notre invitée Anne Parillo. C'est le jour des Anne. Bonjour Anne Parillo, merci d'être avec
Bonjour.
Nous. Je vais vous présenter de façon plus circonstanciée dans un instant, mais d'abord, les petites présentations. Je suis entouré de celui qui lit les testaments des stars. C'est toi,
tour. J'ai tout, j'ai tous les dossiers.
Vous avez tous les dossiers, très bien.
Bonjour à tous.
Il y aura l'interro maillot pour tout savoir sur l'actu. Bonjour Régis.
Bonjour à tous. Et bah oui, on fera un petit débrief de la Saint-Valentin, entre autres.
Ça s'est bien passé
Je sais pas.
Non,
ça va, mais j'ai des chiffres en tout cas.
Ah, voilà. 3-1.
On fait des statistiques.
3-1, c'est le chiffre de la Saint-Valentin. Patrice Carmouze avait donné le bon score.
À l'envers.
À l'envers.
Bien tenté, Patrice.
Il est en deuil aujourd'hui.
Parce qu'on va gagner au retour.
Le zapping d'Éric Dussard pour tout savoir sur la télévision.
Bonjour à tous. Moi, je ferai les ânes, mais de la télé-réalité, vous savez.
Bien sûr. Oui, pas mal. Et puis, Patrice Carmouze, vous ferez un test musical, non pas au casou, mais au sifflet.
À vous persister.
Non, c'est pas moi. On va accueillir le siffleur.
Fred Radix revient.
Il avait sifflé notamment des musiques de films.
Très bien. Et aujourd'hui, un très beau cadeau à la clé, comme tous les jours d'ailleurs. Une semaine de ski pour 4 personnes à Orcières-Merlette, 1850. C'est au cœur des Hautes-Alpes. Vous savez, il y a des oiseaux, on ne les entend pas tellement.
Le siffleur est déjà là.
C'est notre siffleur, c'est les oiseaux.
C'est au club Bellambra, le Roc Blanc. Le domaine skiable est magnifique. On vous offre également la location des skis et les remontées mécaniques qui sont incluses. Voilà, appelez au 3210 ou par 74 900 avec le code BONHEUR par SMS. Notre invité d'abord.
Ah.
C'est sans doute l'événement de cette rentrée théâtrale parisienne. L'espionne de Luc Besson dans Nikita fait son grand retour sur les planches. Un retour qu'elle vit comme une première fois. Alors que c'est elle qui doit justement initier un jeune homme fraîchement diplômé et qui est rentré en Californie fêter l'événement avec sa famille. Pour ce rôle mythique de cougar bourgeoise et alcoolique, femme désespérée et désenchantée, à la fois lucide et transgressive, elle s'inscrit dans une formidable lignée qui a vu Kathleen Turner, Lauren Bracco, Jerry Hall, pour ne rien dire d'Anne Bancroft, qui a également interprété Mrs. Robinson dans le film de Mike Nichols qui a popularisé Dustin Hoffman. Après avoir d'abord refusé, elle n'a pas pu résister à l'appel de ce rôle magistral, elle dont la voix est gravée à tout jamais dans notre mémoire auditive collective et qui s'est toujours montrée une actrice à la fois rebelle et passionnée. Il faut dire que le rôle de Cougar nécessite que la comédienne passe les deux tiers de la pièce en déshabillé transparent ou dans une variation de lingerie fine en dentelle et que sans rien dévoiler, je peux affirmer qu'elle résiste à toutes les comparaisons, tant elle est magnifique. C'est dire s'il faut courir l'applaudir dans Le Lauréat, adapté par Christopher Thompson au théâtre Montparnasse, avec nous ce matin, Anne Parillo. Chère Anne, vous aviez joué il y a très longtemps, il y a longtemps, quoi, il y a quelques années.
Il y a très longtemps.
Il y a 80, quoi.
Avignon, aux côtés de Jeanne Moreau, L'Intox, une pièce au théâtre qui avait remporté un gros succès. Mais je crois que vous n'en avez pas gardé un souvenir inoubliable. Vous étiez juré de ne plus jamais faire de théâtre. Alors, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis pour qu'on vous retrouve aujourd'hui au théâtre Montparnasse?
Le personnage, en fait, quand j'ai fait la pièce de L'Intox, je jouais la fille de Jeanne Moreau et c'était la raison pour laquelle j'avais accepté effectivement d'aller au théâtre, non pas pour le rôle qui était pas très conséquent et pas très intéressant, mais pour apprendre auprès de Dufilho et de Moreau. Et la pièce étant un succès, effectivement, elle a duré 9 mois et ça m'a traumatisée et effectivement je me suis dit plus jamais. Aujourd'hui, c'est vrai que le personnage interprété par Anne Bancroft est une femme qui, moi, me touche terriblement parce que derrière son histoire et derrière ce qu'elle fait, il y a ce qu'elle est. Et ce qu'elle est, c'est un personnage désabusé, c'est une alcoolique et c'est quelqu'un qui, en fait, comme toutes les personnes abîmées, a une énorme faille et une blessure qui l'entraîne à effectivement transgresser les codes d'une Amérique trop étriquée pour elle.
Alors on va y revenir dans un instant, on va entrer dans le vif du sujet, mais d'abord je vous ai préparé une interview théâtre ou cinéma, à falloir choisir.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern, à la bonne heure.
Et nous sommes toujours avec Anne Parillo pour Le Lauréat au théâtre Montparnasse. Alors, vous avez fait beaucoup de cinéma et que vous êtes actuellement au théâtre. On va essayer de savoir Au fond, ce qui change pour vous, que ce soit sur scène ou sur un plateau de cinéma, est-ce que le moment où l'émotion est la plus forte, c'est le clap du cinéma ou les trois coups du brigadier au théâtre ?
Aujourd'hui, je dirais le théâtre.
Le théâtre.
Ah oui, oui. Vraiment. Vraiment, c'est...
Là, il faut être là, oui. À ce moment-là. Non, mais je veux dire, le cinéma, on peut retourner éventuellement.
Non, mais exactement. Et puis, l'entrée en scène, là, oui, avant de monter sur scène, il y a quelque chose de l'inconscient et de l'irréel qui se met en place. Sinon, je pense que la peur ferait qu'on n'irait jamais.
Oui.
Vous avez le trac ou...
Ah oui.
Ouais.
Mais terrorisé.
Ouais.
Mais aujourd'hui, vu comment les spectateurs réagissent, c'est vrai que c'est un trac très encourageant et qui me porte, alors que le jour de la première, c'était un trac qui m'a... Je me suis dit, mais pourquoi je suis là ?
Je pars. Mais qu'est-ce qui est le plus gratifiant pour une actrice ? C'est un gros plan au cinéma ou une longue tirade au théâtre ?
Encore une fois, comme aujourd'hui, je suis totalement imbibée et vampirisée par la pièce, c'est vrai que je vais vous répondre théâtre partout.
Oui. Non, mais cela dit, ce qui est aussi stressant au cinéma, on ne le dit pas toujours, mais c'est quand le réalisateur fait refaire 100 fois les mêmes scènes.
Oui, c'est quand même c'est quand même pas tout le temps. Oui. C'est quand même qu'il y a un problème quand on le refait.
Stéphane, vous parlez de
moi. Vous avez tourné. Non, mais il veut toujours autre chose. Il veut toujours chercher autre chose. Alors que là, une fois, ce qui est formidable au théâtre, c'est que c'est fait une fois, et voilà, c'est en direct, j'allais dire.
C'est en direct, c'est spontané, et c'est très vivant, puisqu'effectivement, chaque représentation tous les soirs est différente. Oui. Et
le public est différent.
Fait une semaine maintenant, je réalise que pas une seule fois, j'ai fait la même chose, où le spectateur a réagi
pareil. Au même endroit, de la même façon.
Mais jamais.
On arrive à vite oublier un faux pas, imaginons qu'il y a un petit trou de mémoire, etc. Trop,
ah, mais l'imaginez pas, il existe, je l'ai réalisé.
Et on arrive à dépasser ça, une fois que c'est arrivé, à le mettre derrière soi pour continuer à jouer normalement.
Mais en fait, c'est incroyable ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là, parce que je vous donne juste un exemple, il y a une réplique où je dois dire à un moment donné, tu paieras en sortant, et je n'avais pas mis l'argent dans mon sac. Donc, quand j'ai ouvert mon sac, je n'avais pas l'argent pour dire la réplique.
Ah oui, ça allait de pair.
Et donc, dans ma tête, c'est dit l'idée que je n'ai pas trouvé l'argent, et en fait, je lui ai dit, tu paieras avec ce que tu trouveras.
Ah bah oui.
Et j'ai refermé mon sac et ça a été terminé comme ça.
Adapté.
Et en fait, le cerveau met quelque chose en place qui s'adapte avec la frayeur du moment et l'instant.
Et l'accessoiriste a été viré.
Il a été payé.
Le cerveau est bien fait. En fait.
Le cerveau est bien fait.
Mais alors,
est-ce que... Par contre, une scène d'amour où, par exemple, là, vous êtes en déshabillé, disais-je. Est-ce que c'est plus intimidant au théâtre ?
Je suis plus qu'en déshabillé. Hein. Je termine en culotte, quand même.
J'essayais de ménager nos auditeurs. Ils vont être agréablement surpris.
Bon, bah, mon avis.
Mais justement, c'est plus intimidant sur une scène de théâtre ou quand on doit faire des scènes d'amour au cinéma et qu'il y a 70 techniciens.
Alors en fait, moi j'ai un problème avec les scènes d'amour au cinéma parce que je trouve que elles sont pas réalisées comme elles devraient être. C'est-à-dire que les scènes de sexualité, normalement, devraient être le terrain de liberté, puisque c'est très révélateur de l'identité propre d'un individu. Et au cinéma, parce que c'est codé, on a donc des scènes d'amour standard, quel que soit le personnage.
Ouais.
Or, on est d'accord qu'un psychopathe ou un avocat n'aura pas la même sexualité.
Sûr, mais oui.
Donc, en fait,
mon avocat psychopathe, peut-être.
Oui, j'ai peut-être pris votre exemple. Donc, en fait, moi, j'ai toujours un problème avec ça, parce que je trouve que la scène d'amour devrait correspondre, comme toutes les autres scènes, à l'identité du personnage. Là, au théâtre, le personnage de Mrs. Robinson est un personnage sulfureux et transgressif et qui joue avec ces codes-là. Et effectivement, on a été obligé de passer par ce qu'il a traduit, c'est-à-dire une sexualité assumée.
Donc on est au plus près du personnage.
Donc on le fait vraiment et elle est dans l'exactitude et la justesse de son ressenti.
Eh bien, on va parler de Mrs. Robinson maintenant, avec Anne Parillo, notre invitée, en direct et en public sur RTL.
Bonus, découvrez la nouvelle émission de RTL, Confidentiel, avec Jean-Alphonse Richard.
Bonjour, on se retrouve et c'est un plaisir dans ce nouveau numéro de Confidentiel sur RTL. Une heure au cours de laquelle on va sinuer ensemble dans les méandres d'une vie, une trajectoire qui, comme toutes les trajectoires, n'est jamais une ligne droite. À l'image de celle que je vous propose aujourd'hui, la gloire et le malheur, la lumière et l'ombre d'un homme gigantesque, un monstre, comme il se surnomme lui-même, l'acteur aux 200 films, aux 1000 rôles et aux 1000 vies, dans les pas d'un géant et de ses secrets, Confidentiel Gérard Depardieu, c'est tout de suite, et c'est sur RTL.
RTL.
Confidentiel.
Jean-Alphonse Richard.
Gérard Depardieu.
Gérard Depardieu est né dans une maison où il n'a jamais vraiment habité, dont il s'est toujours enfui, mais qu'il n'a jamais quitté. Aujourd'hui encore, il lui arrive de rêver au numéro 39 de la rue du Maréchal Joffre, quartier de Lomelon à Châteauroux, où une petite porte en fer s'ouvre toujours sur un maigre jardinet, une façade grise et des souvenirs perdus. Gérard Depardieu a vu le jour ici le 27 décembre 1948. Et ses premiers pas, dans deux petites pièces étroites et sombres, ont décidé de sa destinée tout entière. Jamais une enfance aura à ce point dicté les gestes, les mots et les désirs d'un homme. La jeunesse de l'acteur, il le dit lui-même à qui veut l'entendre, fut formidable. Troisième enfant d'une famille qui en compte six, des pauvres de l'après-guerre, jamais un sou à la maison. Pas de misère noire, mais une existence de briques et de broc. René, le père, surnommé le Dédé, taulier formeur, pêcheur à la ligne et promeneur des bords de l'Indre. Un puits de silence et de timidité, une ombre muette qui a appris à ne jamais se faire remarquer, à se fondre dans le décor et à se réfugier dans l'alcool.
Alors, votre père était taulier, non pas gardien de la prison.
Et non pas communiste non plus, il vendait l'humanité. Mais il était compagnon du Tour de France. Et le bien décidé, c'est son nom de compagnon. Il s'appelait Berry, car il était Berrichon. Le bien décidé, c'est lui qui avait choisi ce nom. Et c'est le bien décidé, c'est quand même extraordinaire pour quelqu'un qui ne savait ni lire ni écrire.
Alice, la mère, surnommée la Lilette, un visage d'ange triste. Si lasse des grossesses à répétition, qu'elle essaiera d'avorter de Gérard en s'infligeant des coups d'aiguille à tricoter. « Et dire que j'ai failli te tuer », lui répétera-t-elle mille fois. Aujourd'hui encore, il m'arrive de me réveiller en sursaut pour me toucher le crâne, pour savoir s'il ne reste pas quelques cicatrices, raconte Depardieu. Des cicatrices de cette enfance qui ressemblent à des pages de Zola, Gérard Depardieu en garde plein, mais pas celles que l'on croit, pas celles des coups qu'il n'a jamais reçus. Je n'ai jamais été ni jugé par mes parents, ni tenu, ni rien du tout. J'avais été aimé pour être libre, j'ai toujours été libre. La discipline, notion inconnue chez les Depardieu, maison sans ordre, sans rituel, sans clé, sans horloge, sans verrou. La porte d'entrée donne directement sur l'aventure. Gérard ne fuguera jamais. Il ne fera que s'évader pour connaître le monde extérieur, fasciné par ces avions qu'il voit décoller d'Orly quand il rend visite ici à sa grand-mère, Dame Pipi à l'aéroport. J'ai toujours voyagé depuis les chiottes d'Orly. Je voyais toutes les villes du monde défiler. Saïgon, Addis Abeba, Buenos Aires. Je me disais, un jour, j'irai là-bas, j'irai. À 10 ans, il en paraît déjà 15. Il découche et personne ne lui dit rien. Commence à traîner dans les rues de Châteauroux. À 13 ans, il en fait 17. 1,75 m pour 70 kg. Il quitte l'école que, de toute façon, ses parents ne peuvent pas payer. Gérard a un blouson rouge, une gueule de petite frappe qui effraie les honnêtes gens et se débrouille. Des petits boulots, des petits larcins, des petites bagarres pour s'en sortir. Il a tout du voyou et malgré son jeune âge, il lui arrive de faire peur aux gendarmes. Il voyage sans billets, sans bagages, en se cachant dans des trains ou dans le car des supporters de la Berrichonne, l'équipe de foot de la ville, qui va jouer à Monaco. C'est la première fois qu'il voit la mer. C'était tellement beau, pendant des mois ça m'a porté, se souvient-il. L'été suivant, il sera embauché comme plagiste au Cap d'Antibes. Personne ne s'interrogera vraiment sur l'âge exact de cet adolescent qui est déjà un homme. L'enfance de l'acteur n'est qu'une suite ininterrompue d'allées et venues, d'évasions, d'escapades. Un tournis sans barrières, sans limites. Mais cette totale liberté n'est qu'une illusion. Gérard peut certes aller partout, mais en réalité, il ne va nulle part. Gérard voit plein de monde, mais en définitive ne rencontre personne. C'est la première fracture de l'acteur. Cette conscience aiguë d'être marginal et condamné à le rester. Qui pourrait s'intéresser à ce voyou sans foi ni loi, sans scrupules ni morale, qui ne peut que finir en prison? L'éclaircie vient de la base aérienne américaine installée à la Martinerie. Plus de 10 000 hommes dans ce camp de l'OTAN. Les jeeps, les cigarettes blondes, les chewing-gums, le bowling, le rock'n'roll. C'est un air d'Amérique que respire soudain Gérard Depardieu. Avec sa carrure, son sourire désarmant, sa blondeur, il ressemble à tous les GI de la base. Il ne parle pas un mot d'anglais, mais semble déjà s'exprimer comme un petit gars du Middle West. Il ne va pas avoir de mal à se faufiler dans ce sanctuaire protégé. Pour la première fois, on va l'accepter sans lui demander des comptes, le considérer sans le juger. Le camp est l'endroit où il trafique des cartouches de cigarettes, des bouteilles de bourbon et des chemisettes pour les revendre à prix d'or dans les hôtels de Châteauroux. Avec les Américains, l'argent coule à flot. Il en donne à sa mère et claque tout le reste. Mais la Martinerie n'est pas seulement un terrain de magouilles et de marché noir. C'est l'endroit où il apprend à parler anglais. Où il voit Elvis Presley, en chair et en os, venu donner un concert où il découvre les films américains. C'est à peine croyable. Mais dans moins de 10 ans, le gamin perdu de Châteauroux qui mange du pop-corn en regardant Yul Brynner dans Les 7 mercenaires tiendra la vedette dans Les valseuses.
Cet extrait vous a plu? Alors retrouvez cette émission chaque samedi à 14h sur RTL ou abonnez-vous au podcast de Confidentiel.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Et nous sommes toujours avec Anne Barillot qui est sur la scène du Théâtre Montparnasse aux côtés d'Arthur Fenwick, Marc Fayet, Françoise Lépine, Jean-Michel Lamy et Adèle Bernier à l'affiche du lauréat depuis le 8 février. On en a parlé, c'est un rôle magistral, mythique. Ce rôle vous poursuivait, pour ne pas citer Dominique Besnéard, mais c'est lui qui vous l'avait proposé il y a quelques années et vous l'aviez refusé.
Oui, je me sentais pas capable, je me sentais pas avoir l'autorité nécessaire et l'assurance nécessaire du personnage. Et c'est vrai que 2 ans plus tard, tout à fait par une autre voie, par celle du metteur en scène, en fait, j'ai réalisé à quel point la partition serait magnifique et la variété d'émotions et de sentiments que le personnage possède.
Et alors, ce qui est étonnant, c'est que Christopher Thompson a apporté beaucoup aussi en l'adaptant, en mettant plus d'humour que dans le film d'ailleurs, non ?
Mais en fait, j'étais surprise parce que les gens rient. Et en fait, c'est une tragicomédie.
Alors évidemment, beaucoup de gens se souviennent de ça, on écoute. D'ailleurs, cette musique remixée dans la pièce.
Vous salut dessus.
Oui. Et vous-même, vous aviez.
Oui, parce qu'on peut pas, ne pas la mettre.
Ah, mais tout au long de la pièce, il y a la musique.
Il y a la musique.
Ah oui, ils sont liés.
Ça va avec. Oui.
Et est-ce que vous aviez revu avant de jouer, le film de Mike Nichols avec Dustin Hoffman et Anne Bancroft?
Non. Je me suis interdite parce qu'effectivement, il y a toujours le piège de l'imitation. Et c'est surtout pas ce qu'il faut effectivement faire. Il faut essayer de repersonnaliser et recréer le personnage pour que la comparaison n'existe pas déjà.
Et faire une création.
Et puis c'est différent quand même.
Et chaque fois c'est différent. Alors, les uns et les autres, vous connaissez l'histoire. Est-ce que vous voulez que je vous la raconte?
Oui. Ça sera bien pour nos auditeurs aussi, ce sera sympa.
Eh bien, je raconte le début de l'histoire.
Pas la fin, Stéphane, même si vous adorez ça.
D'abord, j'adore raconter par la fin. C'est la rencontre d'un jeune étudiant qui est fraîchement diplômé, Benjamin, qui lors d'une soirée organisée par ses parents pour fêter son diplôme, va rencontrer Mrs. Robinson, qui a 2 fois son âge. C'est une amie de ses parents et elle va le séduire dans tous les sens du terme.
Ils la connaissent déjà, c'est l'amie de la famille.
Et alors, elle est à la fois, on est dans les années 60. Ça joue beaucoup aussi parce que elle est très libre, elle est très moderne. et en même temps, on la pressent à cause de l'alcoolisme. Il y a toujours une désespérance. Il y a quelque chose de très fragile chez elle.
Mais c'est vrai que, en fait, c'était visionnaire. C'est-à-dire que la pièce est totalement actuelle aujourd'hui, dans le mouvement, effectivement, qui se passe actuellement, et de la parole féminine. Et c'est vrai que est inclus dans la parole féminine le fait qu'aujourd'hui, une femme plus âgée, une femme mûre, peut avoir une histoire d'amour avec un jeune garçon, ce qui était autorisé quand même depuis toujours pour les hommes, sans jugement. Alors que la femme, c'était d'ailleurs même au début et toujours aujourd'hui, on lui a quand même donné un nom qui ressemblait à une maladie, c'est un cougar.
Cougar, c'est moche.
Alors que je ne sais pas quel est le mot correspondant.
C'est un fauve. Enfin,
c'est un peu misogyne.
Oui,
quand
même. Ça fait. Vous voyez,
c'est mieux cougar que vieux beau, parce que.
Oui, mais oui, mon Dieu. On dit
pâtisserie bretonne, c'est moche.
Oui, c'est moche.
Mais c'est vrai que dans l'histoire du lauréat, c'est plus, c'est pas une cougar.
Non, pas du tout.
Il y a un acte de prédation au début de la pièce et au début du film, mais c'est après, pas une cougar. C'est-à-dire que ça aurait pu être lui, ça aurait pu être autre chose. C'est-à-dire que c'est tout ce qui va pouvoir la rendre vivante et faire que son existence, qui est totalement gâchée par l'ennui et par un mari inexistant, puisse avoir quelques éclats. Et voilà, donc pourquoi pas lui, que tout le monde admire, que tout le monde porte au nu et qui a l'air d'être intelligent. Parce qu'elle est très intelligente. Donc d'un seul coup, c'est deux intelligences qui vont se rencontrer sur le terrain de la désillusion, en fait.
Mais ce qui est assez étonnant, c'est que ce personnage de Mrs. Robinson, elle ne suit pas les lignes droites toutes tracées par l'existence. Non. Et ça vous correspond. Vous n'aimez pas ça non plus.
Non, je pense que c'est là où ça a résonné.
C'est une autre façon d'envisager la vie.
Oui, complètement. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là où il faut et où on l'attend. Elle est là où elle le désire et elle a cette liberté qui est elle aussi extrêmement moderne et très rock'n'roll en fait. Parce que peu importe le regard extérieur, elle fera absolument ce qu'elle sent sans aucun scrupule.
Mais c'est ce que vous avez fait.
Oui, parce qu'elle casse, non ?
Oui. Absolument.
Vous n'avez jamais été là où on vous attendait, quoi.
Non, et c'est vrai que je peux ne pas travailler pendant 4 ans, ce que je viens de faire, et puis faire 3 films à la suite. Enfin, je n'ai pas de code, je n'ai pas de normes, je fais effectivement vraiment ce que.
Et vous avez fait toutes sortes de femmes aussi, vous avez incarné toutes sortes de femmes.
Oui.
De Nikita à la mère à Anne d'Autriche.
Oui, enfin, ça fait, oui.
Vous avez été en même temps.
La mère de Leonardo DiCaprio.
Oui, absolument.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern, à la bonne heure.
Et nous sommes toujours avec Anne Barillot. D'abord, elle n'avait aucune raison de partir.
On espère
avec Mrs. Robinson.
Jamais on l'attend.
Au théâtre Montparnasse, c'est l'événement. Mais alors lui, il a lu la presse. Vous savez, le jeudi, c'est le jour où sortent les magazines.
Oui,
donc il a lu la presse People pour
tout Edouard Dutour. Et j'ai pas lu que
les People de la semaine d'Edouard Dutour sont à la une.
Alors j'ai évidemment lu toute la presse People, Stéphane, mais pas que la presse People. J'ai notamment lu le Figaro d'hier, où il y a un article sur. Bah ça m'a pris, voilà, de lire le Figaro. C'est un article donc sur la saga Hallyday qui est passionnant parce qu'il est un peu plus subtil et un peu plus renseigné que les autres. Je vais vous faire la synthèse. Alors en fait, c'est vrai que bon, l'article commence par relever l'usage du conditionnel dans la phrase de Laura qui dit ce testament que tu aurais écrit. Donc évidemment, elle met en cause la légitimité du testament et pose la question de la lucidité de Johnny. Mais alors après, l'article explique très bien que concrètement, il y a peu de chances finalement de revenir sur ce testament, mais qu'il s'agirait de mettre la pression en fait sur Laetitia pour arriver à une sorte d'accord à l'amiable, une négociation qui éviterait évidemment déjà une terrible bataille judiciaire.
10 ans de blocage,
et puis ça éviterait de mettre d'assigner tous les tribunaux, de mettre sous séquestre les comptes et les propriétés. Donc voilà,
c'est une stratégie en fait.
C'est la stratégie, voilà. Et donc qu'est-ce qui aurait précipité les événements en fait? C'est un soi-disant article de Paris Match qu'on n'a pas encore vu, mais en fait Laetitia aurait décidé de s'exprimer dans Match, c'est ce qu'on apprend dans le Figaro, pour faire la promotion de l'album à venir, à l'album posthume. Et c'est ce soi-disant article qui aurait déclenché la colère de David et Laura, puisqu'ils ne sont pas tout à fait d'accord par rapport à l'utilisation musicale, en tout cas sur les droits. Donc c'est pas tellement une histoire d'argent, c'est surtout sur la façon dont va être exploité.
Surtout qu'ils n'auront pas le droit sur cet album-là.
Les chansons de son père, voilà. Alors, ce qu'on apprend aussi, après ce qui est plus rigolo, si on peut en rire, c'est évidemment la personnalité de Eliette Boudou, qui est la grand-mère, qu'on appelle Mamie Rock, qui est la grand-mère de Laetitia. Ouais. Donc là, c'est très détaillé. On apprend que ça fait 6 ans qu'elle est la représentante légale de toutes les sociétés françaises du couple Hallyday. Mamie Rock a 85 ans, c'est quand même un bel âge quand même pour gérer tout ce genre de société. Et on apprend qu'elle a quand même tenu un commerce dans sa vie avant celui-ci, qui s'appelait La Coquille, qui était une place
plage au Cap d'Agde. Une plage au Cap d'Agde, un Marseillan, je crois, à côté du Cap d'Agde.
Ils ont tous mis à poil, ça va dire, dans un
elle est passée d'une plage du Cap d'Agde aux sociétés de la famille Hallyday. Alors, elle gérait la société qui s'appelle.
Coquille vide.
Coquille vide, pas tout à fait, mais bon. En tout cas, elle gère la société qui s'appelle Mamour, hein, c'est le surnom que. Oui, la société s'appelle Mamour, c'est le surnom que Laetitia donnait à Johnny. Alors, ça gère l'argent. Ça gère l'argent détourné. Elle gère une autre société.
L'argent détourné.
Non, ça c'était. Détourné des concerts.
Là, c'est pas mal. Vous deviez un avis que l'argent avait été détourné.
Mamie Rock, elle est également représentante, gérante d'une société qui a acheté la Savannah, la fameuse propriété de Marne la Coquette, qu'elle a essayé de vendre en 2010. Oui. Ils avaient mis la propriété en vente à 26 millions d'euros. Mais je crois que c'était un peu trop cher. C'était pas parti. Donc là, c'est à nouveau sur le marché, je crois, avec 15 millions d'euros. Mais tout ça, c'est Mamie Rock aussi. Alors, ce qui est sympathique, c'est que les conseils de la famille Hallyday se sont exprimés sur la présence quand même de Mamie Rock comme assez importante dans toutes ces sociétés. Ils disent que c'est pour une volonté de simplification et une totale confiance en Mamie Rock. C'est pour ça qu'elle serait elle-même gérante de toutes les sociétés. Alors, on apprend aussi que depuis la mort de Johnny, il y a 350 000 albums qui se sont écoulés. Mais là encore, on ne peut pas savoir exactement combien ça a rapporté parce que Laetitia aurait négocié avec le tribunal de commerce une clause de confidentialité qui fait qu'on ne sait pas totalement dans quelle caisse c'est tombé, etc.
Je crois que Mamie Rock vous a empoisonné.
Excusez-moi.
C'est à Mamie Rock qu'on doit la fameuse phrase quand elle était au Cap d'Agde de chasser le naturiste, il revient au galop.
Voilà, il revient au galop.
On peut arrêter l'émission.
Pas galop.
Celle qui revient, on change de sujet plus rigolo, on va parler d'amour parce que c'était la Saint-Valentin hier. Dans Elle, il y a une très belle couverture avec Sophie Marceau qui s'exprime sur sa vie sentimentale, ce qui est assez rare. En fait, elle le dit, je trouve ça pas mal parce que souvent, vous allez me dire, Anne Parillo, si vous êtes d'accord, mais les actrices sont prudentes quand même sur le sujet et surtout quand elles sont célibataires, il y a comme une sorte de tabou à dire qu'on est célibataire. Et alors elle dit qu'elle est seule depuis un an. Alors elle dit, le journaliste lui demande, mais comment vous faites avec la solitude? Alors on a envie de dire, bon ça va, ça fait qu'un an quand même. Elle dit, je fais comme tout le monde, c'est la vie, j'apprends, je découvre de nouvelles choses. Ce qui m'arrive est assez banal, dit Sophie Marceau. Voilà. Certes, je suis seule, mais il ne faut pas dramatiser non plus, je ne vis pas en Syrie sous les bombes, dit-elle. J'aime bien les épreuves qui se présentent dans l'existence. Bon alors évidemment, on a une pensée pour tous ceux qui ont eu des épreuves dans l'existence hier soir, hein, quand ils étaient sans Valentin et pas avec Valentin, et puis en plus avec le PSG qui a perdu 3-1. Voilà. Donc, et puis après, enfin, je finis avec ça, c'est dans Gala, avec votre chouchou Stéphane en une, Julien Doré. Mais ce que j'adore, c'est une interview de Valérie Lemercier par Jérôme Commandeur. Vous savez qu'ils vont faire un film ensemble, puisque ça va être le biopic de Céline Dion, et il va jouer René. Voilà. Et elle dit un truc assez rigolo, elle a vraiment un humour décapant. Elle dit, j'ai dîné avec Harvey Weinstein quand j'avais 23 ans, il ne m'a même pas regardé, il faut dire qu'à cet âge, j'avais l'air d'en avoir 80. Voilà, c'est du Valérie Lemercier, pur jus dans Gala.
Merci beaucoup.
J'en prie.
Et donc, c'est les Hallyday qui font la une de
demain,
Paris Match.
Paris Match avec
Doré,
beaucoup
Gala.
De prudence. Gala, Julien Doré. Et puis demain, c'est la presse People, mais plus qu'un niveau qui arrive demain dans les kiosques. Mais ça, on ne
regarde pas trop.
On reste dans le.
C'est ce que vous dites que vous ne regardez pas.
Ah non, je ne veux pas me
ça disparaît dès que ça arrive.
Les pas. Yeux, à la rigueur, quand ça arrive sur votre bureau, mais pas les mains. On va retrouver dans un instant de Paris pour le vrai faux de l'invité. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Le vrai faux de l'invité.
Alors. Ne vous inquiétez pas, rien de grave, chère Anne Barillot. Nous avons les informations sur votre carrière, mais peut-être mes petits camarades ne connaissent pas, comme Patrice et moi, votre carrière. On va donc les interroger et il y a des pièges, ils vont peut-être tomber dedans.
En fait,
ça va nous amuser. Alors, Anne Barillot est devenue actrice parce que sa maman lui a fait prendre des cours de théâtre. Mais elle rêvait de devenir avocate pour défendre des causes perdues. Et elle continue à lire tous les faits divers, à écrire des plaidoiries.
Elle ne nous donne aucun indice, contrairement à d'autres invités. Allez, on va dire vrai.
Oui, c'est complètement vrai.
Alors.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai.
Ouais. Alors, j'écris pas les plaidoiries.
Hein. C'était
juste sauf les plaidoiries. Mais oui, c'est vrai qu'en tant qu'actrice, j'ai une heure et demie sur scène ou sur un écran pour plaider la cause.
Oui, ça défend la
personne.
C'est bien. Alors, Anne Parillot, un point commun avec le Dalai Lama. Vous savez que le Dalai Lama, au début, il mettait un peu de thé dans l'eau chaude et puis il a supprimé le thé, il ne boit plus de l'eau chaude. Eh bien, Anne Parillot aussi, elle a fait pareil. Elle boit de l'eau chaude, c'est sa boisson préférée.
C'est
très bon, c'est détox.
Très bonne, très bonne purge, une détox.
Oui, on a une chanteuse qui faisait ça qu'on avait reçue, je ne sais plus qui. Qui avait demandé un bol d'eau chaude. Pendant une minute. C'est bien, ça ne coûte pas cher.
C'est pas très cher. C'est pas cher.
Une infusion.
Alors, vrai ou faux?
Oui, c'est vrai. Ouais. Depuis des années.
Ah oui.
Oui.
Mais faut être ça le matin.
Le matin.
Et c'est.
Et sans citron, sans rien.
Ah, sans rien, hein, parce que. Dans
mais, mais avec plaisir.
Avec énormément avec plaisir. De plaisir. Ah, oui. C'est-à-dire que c'est le café de tout le monde. Si j'ai pas l'eau chaude, la journée démarre pas.
Votre geste santé du matin, c'est le un bouton rouge, c'est ça des...
Ah non, c'est pas l'eau chaude du robinet quand même.
Ah non, non, non. Ah, c'est eau filtrée qui est bouillie. Et après, voilà.
Très bien.
C'est compliqué à préparer, en fait.
On va essayer. Eau filtrée, oui, avant. Si l'on n'a pas vu Anne Parillaud ces dernières années au cinéma, c'est parce qu'elle s'est consacrée à l'écriture d'un roman. Un roman dont elle dit qu'il serait assez psychanalytique et qui devrait paraître à la fin de l'année.
C'est vrai ?
C'est à vous, c'est vous que j'interroge.
On essaie de piéger l'invité. Oui. Voilà, c'est ça.
Il n'y a pas raison que ce soit faux.
Je suis affiégeable.
Ben ouais, on a vu ça.
Alors, vrai ou faux ?
Vrai.
Allez, ok. Vrai.
Oui, c'est vrai. Ouais. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que j'ai tout arrêté et que je me suis laissée vampiriser par l'écriture et je suis tombée dans le pot de miel. Au départ, c'était
simplement... un film au départ, non ?
Voilà, au départ, c'était vraiment dans l'idée de réaliser un film. Ce projet ne m'a pas quittée, sauf que je me suis pris d'amour pour l'écriture et j'ai mis 4 ans au lieu simplement de faire un passage avant la réalisation.
D'accord. Mmh. Mais là, c'est avant la fin d'année, alors ?
Ça sortira à l'automne.
Et ça va causer de quoi ?
L'homme et la femme.
L'homme et la femme.
Ah oui, c'est un vaste sujet.
4 ans, c'était,
ça au moins
4
c'était
le minimum, effectivement. Oui.
Oui, c'est qui vous y allez là qui ont demandé ce que c'était guerre et paix.
Oui.
Ça. Il avait
pris un manuel de lecture rapide. Il disait j'ai lu guerre et paix en un quart d'heure. Ça se passe en Russie.
L'essentiel.
Anne est passionnée par la politique. Elle manque pas un débat. Elle manque pas. Elle adore ça. Et surtout, elle part pas au week-end un truc comme ça s'il y a un vote ce jour-là.
Ouais, non, bon. C'est l'inverse.
Bon, alors, statistiquement, on va dire faux là cette fois-ci. Il y a eu du vrai.
Vous ne votez plus.
Non, ça c'est le côté, ça s'apparente au côté rebelle. Non, mais c'est pas que je vote pas. Si ça peut m'arriver de voter, mais voilà, c'est vrai que je suis quelqu'un de très entière et je ne fais rien de ce que je ne ressens pas. Donc si je ne ressens pas de voter, je ne vote pas parce que c'est le devoir. Voilà, mais parce que je veux être dans ma vérité et dans
de l'instant.
De l'instant.
Vous n'aimez pas l'eau tiède. Vous n'aimez que l'eau chaude.
Anne Parillaud a besoin, pour répéter son rôle de Mrs. Robinson, de calme absolu, le silence. Et le seul endroit où elle peut vraiment répéter dans le silence, c'est dans les cimetières. Donc elle va dans les cimetières pour...
La salle est à côté, comment ça se passe?
Ça vous fait marrer, ça. Hein. Ah, il est content.
Il y a un public qui est toujours content, du reste.
Voilà. Il fait, pourquoi il y a du silence dans les cimetières, depuis quand?
Parce qu'il y a silencieux, les cimetières, vous n'avez pas de gens qui dansent,
oui,
qui...
Oui.
Il y a des bruits, il y a du vent, c'est toujours fréquenté par des vieilles dames qui pleurent.
Longtemps, vous n'êtes pas allé.
Régis, ça doit être du vrai-faux, ça. Le cimetière, ça doit être vrai, mais pas pour répéter.
Non, mais c'est vrai que ça peut être très bruyant à l'intérieur des âmes, de nos âmes, quand on va dans un cimetière.
Oui, bah oui.
Parce que d'un seul coup, il y a un bilan.
C'est vrai qu'on fait rarement de chenilles.
Et donc, c'est vrai que ça peut. Donc, il y a beaucoup de faux, là.
Il y a beaucoup de faux.
Non, vous aimez aller dans les cimetières, non ?
Oui, absolument. Oui. Absolument, parce que je trouve qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe dans l'intimité d'un individu quand il est face à toutes ces tombes et qu'il essaye de réaliser le sens de la vie. Enfin, on ne peut pas l'éviter. On se pose quand même les questions de pourquoi, comment, et où vais-je, et qui suis-je, et pourquoi faire.
C'est vrai.
Donc, entre toutes ces questions,
non, mais c'est vrai,
c'est un vrai...
C'est des belles balades, les cimetières, notamment à Paris. Ouais. C'est formidable.
Mais ils sont très beaux. Hein, le Père Lachaise, c'est magnifique.
Il y a de la lecture.
Montparnasse, Montmartre, non, le tour des cimetières parisiens, ça vaut le détour.
On pourrait peut-être faire le cimetière préféré des Français, Stéphane.
Oui, non mais
d'abord, on voit plein de gens.
Très bien. Il y en a où il n'y a plus de place.
Il y a Saint-Barth, maintenant aussi, qui est quand même connu.
Ah, Saint-Barth.
Ouais, maintenant, il y a une file d'attente à terminer.
Puis ça coûte cher, le billet, non, pour y aller.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Et nous sommes toujours avec Anne Parillaud. Pour Mrs. Robinson, il faut courir au théâtre Montparnasse. Mais alors, ça c'est mathématiquement, ça, c'est très facile. Hein,
pour aller à Montparnasse, oui.
Pour aller à Montparnasse. Par contre, vous savez qu'on a un vrai problème avec les mathématiques. Vous aimez les mathématiques? Vous étiez bon élève, Anne Parillaud, en mathématiques?
Ah non, c'est pareil. Moi, je suis plus littéraire que...
Mais oui, moi, j'ai failli rater mon bac à cause de ça. Alors, justement, nous avons au téléphone Mickaël Launay pour le livre « Le grand roman des maths ». C'est de la préhistoire à nos jours, chez J'ai lu. Bonjour, Mickaël Launay.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes normalien. Vous avez fait une thèse de maths sur les probabilités. Bref, vous êtes ce qu'on appelle une tête. Bon. Votre but, c'est pas de rester dans votre tour d'ivoire, mais de faire partager votre amour des maths. La phrase « Je suis nul en maths » que nous pourrions probablement tous dire ici, eh bien ça vous exaspère. Pourquoi ?
Bah, parce qu'en réalité, effectivement, quand vous dites que parce que je suis bon en maths, ça veut dire que je suis une tête, en réalité, il y a plein de formes d'intelligence et les mathématiques sont souvent considérées comme une forme de mesure de l'intelligence absolue, alors oui. Que ça n'a pas de raison de l'être.
Oui, mais c'est le cas en France.
Ne pas avoir de talent en maths
oui.
Et être quand même très intelligent dans plein d'autres choses. Oui. Mais effectivement, les mathématiques, même si on n'a pas de talent particulier pour les mathématiques, on peut les aimer, et on peut les aimer de plein de façons différentes.
Oui, mais regardez, quand on était à l'école, c'était uniquement des théorèmes et des équations, et au fond, c'était très détaché des réalités. Vous, dans le livre, vous racontez l'histoire des maths en partant d'une visite au Louvre, dans les salles consacrées à la préhistoire, et effectivement, on se rend compte que les premiers outils respectent des règles mathématiques. Donc pourquoi... les maths sont dans la nature.
Ah ben oui. Et on ne sait pas les voir. Elles sont dans la nature, elles sont dans la culture, on peut la trouver partout. Effectivement, dans les musées, on peut regarder tous les motifs géométriques que nos ancêtres utilisaient pour décorer leur poterie, leur bâtiment, etc. Et c'est absolument fascinant. Et effectivement, à l'école, souvent, on déconnecte le côté très théorique, on apprend uniquement le côté technique en déconnectant un peu de la culture mathématique. Par exemple, on connaît très peu les noms des mathématiciens, les noms des mathématiciennes qui ont découvert ces choses. Et c'est un peu un drame. Si on demande aux gens de citer des noms de mathématiciens, alors souvent on dit Pythagore, Thalès, parce qu'il y a des théorèmes qui portent leur nom.
Et les premiers philosophes, c'est des mathématiciens, en fait.
Oui, pendant très longtemps, les deux disciplines ont été très liées. Oui, les philosophes
étaient Casio aussi.
Mais c'est vrai qu'on se disait, et c'est pour ça que vous avez raison de parler de différence d'intelligence, on se dit que les maths, c'est une sorte de jeu intellectuel. Et que c'est pas en rapport avec l'intelligence de la vie, des choses de la vie courante.
Le réel, le bon sens.
Le réel.
Alors que c'est faux.
Bah justement, ça dépend des gens. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens qui vont, quand je fais des ateliers dans les classes, des enfants qui sont très intrigués uniquement par le jeu intellectuel, parce qu'on se pose des défis, on a envie de résoudre des énigmes, et c'est très stimulant. Et puis il y en a d'autres, parce qu'il y a plein de façons d'aborder les choses, qui vont être plus stimulées par des choses concrètes, par faire une maquette, faire des choses concrètes, et puis du coup on va avoir besoin des outils mathématiques pour réaliser ces projets.
Alors là, il y a une chose amusante, c'est que Patrice Carmoz a trouvé, parce que vous savez, il va beaucoup sur les sites, et
Internet,
et là, il a trouvé, c'est quoi votre équation ?
Non, c'est des profs qui se servent des Jeux Olympiques, alors par exemple de Martin Fourcade, pour faire des exercices. Pourquoi il est plus rapide que les autres, etc. Donc c'est pas bête. C'est-à-dire que ça
il faut calculer l'angle qui lui a permis de tirer dans la cible au biathlon.
Voilà, Stéphane, le X sur son site, c'est pas pour une équation. Hein.
Mais ça, c'est
alors
très
vous,
pratique.
Vous, Mickaël, vous faites des maths dans la rue. Et vous avez un site sur YouTube, Micmat, ça s'appelle, qui rencontre un énorme succès. Donc au fond, on peut peut-être changer le regard des petits Français, et même des gens un peu plus âgés comme moi, sur les mathématiques.
Oui, effectivement. Moi, ce que je fais dans les vidéos, c'est vraiment essayer de montrer les mathématiques sous leur aspect ludique, sous leur aspect poétique, et essayer de montrer des choses jolies. J'essaye pas, sur mon site, d'apprendre à faire des maths. Je rentre pas dans les détails techniques. Ça, après, il y a l'école, il y a les professeurs qui sont très bien pour ça. Mais juste se dire, il y a quelque chose d'intrigant. Essayer de montrer aux gens que c'est juste passionnant, parce que les mathématiques sont une science, ça permet de comprendre le monde, ça permet de jeter un regard nouveau sur toutes les choses qui nous entourent, et on peut en faire un peu partout. Et dès lors qu'on donne du sens aux mathématiques et qu'on sait pourquoi on les fait, à partir de ce moment-là, forcément, on est plus motivé pour aller dans les détails techniques, parce qu'on sait pourquoi on y va. C'est pas juste des détails techniques qui sont déconnectés de toute réalité.
Alors, justement, on était pourtant le pays réputé avec Mathsup, Mathspé, ces classes préparatoires.
Et puis la médaille Field.
Par exemple, les livres de mathématiques dans le monde entier sont en français ou en russe, puisque c'est les deux pays qui sont réputés avoir les meilleurs mathématiciens. Est-ce que ça, c'est en train de changer ? Est-ce qu'on est en train de perdre notre place
Aussi beaucoup en anglais. Aujourd'hui, la recherche mathématique se fait essentiellement en anglais et tous les articles de mathématiques sont en anglais.
Comme on est nul en anglais en plus en France, on va se coucher.
Oui, s'il faut faire en plus des maths en anglais.
Des maths en anglais,
on va regarder les anges à
l'été. Rien que le livre a déjà eu plus de 100 000 lecteurs.
Plus de 100 000 lecteurs. Je vous recommande le livre, Le grand roman des maths de la préhistoire à nos jours de Mickaël Launay chez J'ai lu. Merci beaucoup, Mickaël, d'avoir été en direct avec nous.
On retourne. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a deux sortes de gens, deux types de gens. ceux qui sont bons en maths et les autres. Trois types de gens, ceux qui sont bons en maths et les autres.
Mais aussi, je pense qu'il y a un problème de pédagogie dans toutes les matières, en fait. C'est-à-dire que là, on parle des maths, mais c'est valable pour le français, pour l'histoire. Si on savait enseigner correctement l'histoire de France ou l'histoire mondiale, elle est passionnante, en fait. Si moi, j'y retournais, je serais première, alors que j'étais nulle. Et en fait, tout est un peu comme ça dans les disciplines. C'est-à-dire que tout problème est l'enseignement de manière générale et comment intéresser les jeunes enfants qui ne sont pas préparés et qui sont peut-être trop jeunes pour recevoir des informations, comment s'adapter pour que finalement ça les passionne.
Oui, mais on a aussi des profs. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des profs qui m'ont marqué. Par exemple, mon goût de l'histoire vient des profs que j'ai
bien marqué.
Ils m'ont donné un amour.
Voilà, mais pas rouge.
Ils vous ont marqué, ils vous ont tapé.
Ah ouais,
vous avez été battu par vos profs.
D'ailleurs, c'est pour ça que je vais vous interroger.
D'accord. Ah oui, c'est l'interro maillot maintenant.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Et nous retrouvons non seulement Anne Parillaud, mais celui qui veut nous interroger sur l'actualité. J'ai nommé Régis Maillot.
L'interro maillot.
Attention, ça va être difficile aujourd'hui. On a une pensée débrief de la Saint-Valentin. Évidemment, on a une pensée émue pour tous ces amateurs de foot qui ont passé la soirée à écouter du Julien Doré dans des restos à la mode. Ou l'addition frisée, le budget annuel d'une cantine scolaire du Burkina Faso, alors que le PSG se faisait triper par le Real de Madrid. Bien fait. Moi, ce que j'ai fait, je gardais mon petit garçon à la maison, je l'ai mis au lit à 18h30 et ensuite j'ai bu tout seul devant la télé en mangeant de la nourriture régressive. Voilà.
Et votre compagne faisait quoi ?
Je ne sais pas, je n'ai pas demandé.
Elle était avec son amoureux.
Je m'en fous, je me suis endormi, ivre mort devant un porno. Voilà.
Oh.
Une soirée de rêve. Une soirée de rêve. Alors, tout plutôt qu'en coupe. Première question à vous, Patrice Carmouze. La Saint-Valentin, les Français préfèrent passer la fête des amoureux avec. Mais avec qui ? Avec leur animal de compagnie ? Tout seul ? Avec leur mère ou leur père ? Ou avec leurs potes ?
Animal. Moi, je dirais animal.
Avec leur,
il y a eu un sondage.
Leur pote, non. Leur animal, allez.
Vous êtes certain ?
Je ne sais rien, non.
C'est tellement agréable.
Bonne réponse. Ouais. 24% des Français qui ont forcément un animal de compagnie.
C'est les seuls qui sont fidèles.
Bien sûr, le jour de la Saint-Valentin.
Et puis
ça mange
vous leur donnez des croquettes et ils vous aiment.
Oui. Voilà.
Ah non, franchement. Moi,
avec une croquette, t'as un câlin. Alors qu'avec un resto, t'as pas forcément un câlin.
Même quand je leur donne rien, ils sont gentils avec moi.
Tiens, Stéphane Bern, la Saint-Valentin est un rendez-vous incontournable pour beaucoup. Alors pour marquer le coup, les amoureux offrent des cadeaux, une sortie, il y en a qui font les deux. Quel budget à votre avis ?
Le budget moyen ?
Ouais.
17,50€.
Ah, vous êtes vraiment une pince. Hein.
Ça, c'est le budget croquette. C'est pour ça que c'est ta soirée.
50
Resto plus
un
cadeau.
Peu plus.
Ouais,
resto plus cadeau.
100
Ouais, entre 50 et 100 euros.
Mais pour deux, parce qu'il faut inviter la demoiselle quand même.
Ou inversement, il n'y a pas. Voilà. Entre 50 et 100 euros. Donc, mauvaise réponse de Stéphane Bern.
Désolé, mais j'ai
dépensé moins. Mais il est avec son chien maintenant.
Il est avec son chien, oui.
Ça coûte moins cher.
Ça ne monte pas non plus. Non, mais ça a coûté cher parce qu'il y avait les deux.
Oui. Anne Parillaud, vous de répondre. Qu'est-ce qui augmente de 300% à la Saint-Valentin ? Plusieurs possibilités. La vente des préservatifs.
Ah, non.
La vente de chocolat, la vente de roses ou la vente de pizza emportée parce que c'est impossible de trouver un resto ouvert. Enfin, un resto disponible. Préservatif, chocolat, rose ou pizza emportée, à votre avis ?
Entre le préservatif et les fleurs, c'est-à-dire les deux extrêmes.
C'est les fleurs, je pense.
Non ? Préservatif.
Et ce sont les roses.
C'est les roses.
J'ai pas la statistique sur les préservatifs.
Et les préservatifs roses.
Du prix.
La vente. Il y a un Français sur cinq qui va offrir une rose. Édouard Dutour, à vous de répondre. Si c'est une fête populaire aux quatre coins du monde, à Saint-Valentin, quel pays l'interdisent ? Trois possibilités. Le Pakistan, l'Arabie Saoudite ou la Corée du Nord ?
Il y en a deux
qui l'interdisent.
Pakistan et Corée du Nord.
Non, c'est non, Pakistan et Arabie Saoudite.
Oui, bah oui, parce qu'il
y a l'Iran. Il n'y a pas qu'un interdit.
J'ai pas voulu être orienté sur Paris.
Là, mais faites pas les saints.
Il y a l'Indonésie qui est interdite à Saint-Valentin.
Également, bah, je n'avais pas toute la liste.
Il y a l'Indonésie, l'Iran, l'Afrique du Sud.
Ils interdisent l'amour en général.
L'avantage en Arabie Saoudite, quand tu dînes en tête à tête, déjà le monsieur qui a la nappe sur la tête.
Ça, c'est limite.
C'est limite quoi? Si on peut plus rire, en fait. Faisons un hashtag.
Me too.
Tiens, autre information surprenante constatée par Huissier. Elles sont trois fois plus nombreuses le jour de la Saint-Valentin que le lendemain. De quoi parle-t-on, Éric Dussard? Des ruptures, des infidélités ou des blénos?
Blénos puis rupture.
Des ruptures. Non, mauvaise réponse. Ce sont les infidélités qui sont plus nombreuses le soir de la Saint-Valentin. Les gens en profitent.
Comment ça? Vous laissez votre femme à la maison et vous allez.
J'ai du boulot, il y a un pot au bureau et en fait.
Je vais chercher des fleurs.
Ils vont avec leur maîtresse ou leur amant.
C'est horrible ce que vous racontez.
Bah peut-être.
Démystifier ça.
Ouais, c'est horrible.
Mais la blénos, non alors.
Non, la blénos, non. J'ai pas la vraie statistique.
Mais il doit y avoir des ruptures après, donc, du coup. Oui.
Certainement. Allez, passons au reste de l'actualité. C'est un truc qu'on s'en fout, mais je vous le dis quand même. Patrice Carmouze, qu'est-ce qui s'ouvre aujourd'hui à Monaco et qui fait vroom, vroom, vroom,
vroom, vroom, vroom, vroom. Ah, le salon de l'auto.
Le yacht de Stéphane Bern.
Non,
j'ai pas dit.
Le Vibromasseur Charlène. Oui. Le salon de l'automobile ou le salon nautique.
L'automobile.
Le salon de l'automobile.
Exact. Bonne réponse collégiale.
Il est inauguré par Stéphane Bern. Alors, on va retrouver dans un instant Anne Parillaud, puis Éric Dussard pour le Zapping Télé. Oui. À tout de suite.
Vous écoutez RTL. À la bonne heure. Éric Dussard met la télé sur écoute.
Alors Éric, on commence avec la Saint-Valentin. Justement.
Oui, je vous propose de poursuivre la magie de cette fête que vous avez peut-être célébrée hier avec de jolies émissions qui célèbrent l'amour, mais alors tous les jours, à commencer par 4 mariages pour une lune de miel. C'est sur TF1. Alors, avec un mariage pas comme les autres, est-ce que vous reconnaissez le maire qui a célébré une union dans cette émission?
Tous les invités sont maintenant conviés à suivre Daniela et Mounir à l'intérieur de la mairie.
Bonjour, asseyez-vous. Vous savez, le mariage, c'est le plus beau jour de la vie. C'est le plus beau cadeau qu'on peut donner à celui qu'on aime.
Patrice, vous l'avez reconnu
Patrick
tout de suite.
Patrick Balkany, oui.
Effectivement, c'est Patrick Balkany qui était dans 4 mariages pour une lune de miel. Un Balkany tout doux. On n'est pas vraiment habitué à l'entendre comme ça. Hein. C'est-à-dire que moi, je pensais au début qu'il allait leur dire ça. Oui.
Bonjour, asseyez-vous. Vous savez le mariage.
Si vous savez ce que j'en ai à foutre,
Voilà. Là, je le reconnais mieux, notre Patrick Balkany. Vous voyez un peu plus énervé quand même. Hein. Donc, ce couple a eu la chance d'être marié par Patrick Balkany. J'imagine
c'est
qu'il leur a offert.
C'est validé dans ce cas-là.
Il dit au nom de la loi, en plus. C'est ça que j'ai trouvé très drôle, quand même. J'imagine qu'il leur a offert quelques-unes de ces jolies casseroles en guise de cadeau de mariage. Hein. Mais alors, après le rêve, vient l'heure de la désillusion dans cette émission 4 mariages pour une lune de miel, quand les autres candidats jugent votre mariage.
Je pense que t'as joué la stratégie.
Je vais rester calme. Ce que tu as fait n'arrive pas ne serait-ce qu'à la cheville de mon mariage. Mais oui. Que tu viennes critiquer moi mon rôti de veau alors que t'as fait du kangourou. Tu viennes critiquer ma robe alors que ta robe c'est une nappe.
Excuse-moi, mais la tienne c'était un pompon.
Elle était moche ta robe. Sache bien que ton mariage, il était inregardable. C'est mort.
Et donc, Balkany, plus les insultes le jour de ton mariage, maintenant c'est lui qui avance rapidement, cela.
C'est drôle quand même l'insulte. Ouais. Ta robe, c'était une nappe.
Et toi, t'as cuisiné du kangourou. Je ne savais pas que ça pouvait se cuisiner pour un mariage, ni même que c'était autorisé. Bon, bah écoutez. Hein. Allez, place à des couples solides maintenant. Ce sont ceux que l'on voit dans Les Amours, autre émission qui célèbre l'amour au quotidien sur France 2. Vous savez que notre camarade Bruno Guillon vient de reprendre la présentation de ce jeu. Et alors, je dois dire, pour ses premières émissions, ils l'ont gâté. Hein. Ils lui ont dégoté déjà un couple parfait.
Votre compagne Isabelle, que fait-elle qui parfois peut paraître étrange?
Alors moi c'est tout simple, si on la frotte, elle se lèche.
Ah là, la peau sec.
Donc si on vient la toucher, automatiquement, hop, elle va avoir le toc de se lécher. Que ce soit sur les bras, sur les jambes.
Et on va s'arrêter là. Hein, les bras, les jambes, on s'arrête là. Non, alors, non, Stéphane qui me dit, c'est sa chatte. Pas du tout, c'est sa femme. Enfin bon, quand même. Oui, en fait, madame. C'est madame, si vous voulez, a un problème, elle a la peau très sèche. Donc.
Et ben après, elle se lèche. Voilà. Mais du reste, elle devrait peut-être aller faire contorsionner chez Panair, hein, parce que si elle va se lécher les jambes, je dis qu'elle a un incroyable talent.
Mais c'est pas bon, mais mettre une crème hydratante.
Et il a dit qu'elle avait la peau très sec. Ça, c'est offert par la maison. Pour le même prix.
Revenons à l'actualité de notre invité.
Oui, on rappelle, Anne Parillaud, le nom de cette pièce dans laquelle on vous retrouve, le lauréat. Où on parle notamment d'un brillant élève tout juste diplômé, eh bien, je vais vous proposer maintenant de faire la connaissance d'autres lauréats, d'autres puits de culture. Il s'agit des candidats de la Villa des Cœurs Brisés. Magnifique télé-réalité.
C'est quoi les deux guerres mondiales?
Alors, 14-18 et 39-47.
39 combien?
47.
Non, bébé.
C'est quoi?
39-45.
3 et 7 font 11 ou 11?
10?
Ouais, c'est vrai.
Moi, je compte sur des doigts, désolé.
Moi aussi, je te raconte sur des doigts, comme ça, je cachais mes doigts.
Très les mains, tout ça.
C'est quoi les mains?
C'est une grande école.
L'ENA, pardon.
L'ENA. Non, mais l'EMA à la place de l'ENA. Alors, cela dit, l'EMA, c'est ce qu'il devrait faire. L'école maternelle pour adultes. Hein,
oui.
C'est-à-dire qu'eux, il faut vraiment tout reprendre au début.
On part faire du parachute à Sensationnel. On adore bébé.
Et alors là, c'est la Copa League. C'est la Copa League.
La Copalix, c'est la Copalix créole ou les Wikileaks, mais l'Apocalypse devient la Copalix.
Ah, l'Apocalypse.
Oui. Ah, bah oui, non, il a trop de lettres en fait, il va pas les remettre dans l'ordre. Hein.
Oui.
Et ils ont fait du parachute à Sensationnel. C'est-à-dire à Sensation.
Mais c'est un mélange entre Ascensionnel et Sensationnel.
Voilà, et eux sont les deux.
C'est pas mal. Ouais.
Sensationnel et Ascensionnel.
Voilà.
Bon, en parlant de sport, je sais pas si vous avez vu ça, Vianney a profité de sa tournée en Asie pour rendre visite aux athlètes français au JO en Corée du Sud. Il leur a même offert un petit concert privé au Club France, qui est le QG de l'équipe tricolore là-bas. Et alors, un reporter de la chaîne BFM Sport était là, en direct, ce qui a un peu gonflé Vianney, on dirait bien.
Le chanteur Vianney vient à l'instant de monter sur scène, il va se produire pour un petit concert, voilà, il y a quelques instants à peine, il était où? Ben, il était pas là sur la scène, mais ça y est, maintenant il y est monté, voilà. Les applaudissements, c'est pour Vianney, évidemment, c'est pas encore pour nous. Et maintenant, je vais demander à ces gens de se décaler pour aller retrouver Luc Tardif et Vianney qui chante pour nous. Ça va pas durer longtemps, on vous promet.
BFM, tu nous les broutes un peu. Il leur a chanté pour les faire partir. C'est-à-dire que ce reporter l'empêchait quand même de débuter son concert.
Oui.
Ouais, ça pourrait faire une belle chanson, peut-être sur le prochain album, BFM, tu nous les broutes.
Et on termine avec un joli souvenir.
Oui, on va remonter le temps pour arriver à une époque où Stéphane Bern, ici présent, était sur une autre radio, Anne Parillaud, et ce matin-là, vous étiez venu le voir pour lui parler de votre actualité du moment. Mais c'était bien inutile, car Stéphane savait déjà tout de votre actu.
Vous avez plein de projets, j'ai vu qu'il y avait un nouveau film le 24 mars, Dans ton sommeil, c'est ça?
Ah non, lui, non. Il est sorti déjà. Il est sorti au cinéma l'année dernière.
Eh bien, vous voyez, j'ai un an de retard et surtout au théâtre, on va vous voir au théâtre l'année prochaine.
Oui. Oui, j'ai une
première expérience.
Non, j'en ai fait une, mais il y a tellement.
Bah, vous savez quoi, ce qui rassure, c'est que vous n'avez pas tellement changé depuis, Stéphane. Hein, donc, il va vous parler de la sortie de Nikita là, au cinéma d'ici la fin de l'émission.
C'est à peu près. C'est à peu près.
C'était il y a quelques années déjà, ça.
Oui, quelques années.
Ah, bah, je garde vos dossiers.
Ah, oui, je vois ça. Merci beaucoup, Eric.
Vous écoutez RTL.
RTL,
à la bonne heure.
Stéphane Bern.
Et nous sommes toujours à Cannes-Parillaud, mais c'est le moment justement de l'interroger, parce qu'elle est au théâtre avec, et c'est pas la première fois, même si elle le vit comme une première fois, avec Mrs. Anderson dans Le Lauréat.
Robinson.
Vous avez appelé comment?
Anderson.
Est-ce que c'est Anne Parillaud qui vous fait
l'interview? Voilà,
oui. On continue, ouais.
C'est peut-être vous qui lui faites cet effet-là.
Oui, parce que d'habitude, vous êtes assez précieux.
Oui, c'est vrai, bizarre. C'est l'effet Paris, c'est quelque chose.
Et alors, vous allez jouer bientôt dans un film qui s'appelle Nikita.
N'en rajoutez pas, Patrice. Franchement, là, vous m'enfoncez, c'est pas bien.
Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous êtes monté sur scène?
Ah non.
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 Eh bien,
non,
nous
parce
non
que
plus.
C'était donc. Enfin, je me souviens de toute l'aventure avec Jeanne, mais vous voulez dire la première représentation de cette pièce-là.
Ou de cette pièce d'avant.
La première fois dans votre
je
vie.
Je me souviens le Festival d'Avignon, parce qu'avant ça, j'ai joué au Festival d'Avignon une pièce de Daniel Benoît avec Gérard de Sarthe, où je jouais Héloïse Abélard. Et ça, je m'en rappelle, parce que c'était au Palais des Carmes, et c'était en plein air, j'avais jamais rien fait. Et je me souviens que je restais un bon moment assis sur une tombe.
Déjà.
Oui. Et je me rappelle ressentir le vent, l'atmosphère, les murs. C'était que de la sensation.
Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où un garçon vous a embrassé?
Oui, aussi.
Oui.
À Rome, dans un voyage d'école.
Oh, c'est mignon.
Ah, c'est mignon.
Et vous, Stéphane?
Non.
À Rome, dans un voyage d'école.
Et vous? Et vous, Edouard? Non.
C'était hier.
J'hésite.
Est-ce que vous vous souvenez de votre première colère ou de votre première déception? Une chose qui...
Ah oui, ça, je pense, assez rapidement, avec mes parents.
Le premier grand voyage?
Mais je me demande si c'est pas encore un voyage d'école.
Et voyage d'école.
Et si c'est pas lié avec Rome aussi.
Avec Rome, oui.
Voyage d'amour.
Oui, oui. La première fois, vous vous êtes dit, ça y est, j'y suis arrivé.
Alors, j'ai dû avoir cette sensation-là quand j'ai reçu le César pour Nikita.
Oui.
Ou d'avoir la sensation d'être vraiment reconnue par une famille et d'être une famille qui me dit bienvenue. Mmh. Bienvenue avec nous, bienvenue chez nous et fonce. Mmh.
Et la première fois, vous vous êtes dit, je fais enfin le métier que j'ai voulu faire. Je suis moi-même, voilà, je suis ce que j'ai voulu être.
Alors ça, c'est un peu en permanence, hein. C'est toujours d'actualité.
C'est vrai.
Oui. Moi, je suis totalement reconnaissante du privilège que j'ai de vivre intensément ce que j'aime. Et voilà, et de se lever le matin et de dire
j'ai la vie. Ce soir.
Oui, exactement.
Et ben voilà. Eh bien, merci. Ce soir, d'ailleurs, vous serez comme tous les soirs sur la scène du Théâtre Montparnasse, le lauréat. Et voilà, je vais reciter vos petits camarades parce que c'est important de le dire, non ?
Et c'est plus qu'important parce que je me sens totalement dans un écrin d'acteur de théâtre et mettant en scène Stéphane Cotin a vraiment organisé une troupe pour son spectacle, mais du coup moi j'en profite et puisque cette troupe est autour de moi.
Il y a Arthur Fenwick, il y a Marc Feuillet. Françoise Lépine, Jean-Michel Lamy et Adèle Bernier.
Il y a un truc avec Anne Carillon, vous buguez systématiquement.
Ok, vous êtes intimidé. Vous l'appelez Fenwick ou Fenwick?
Fenwick.
Si c'est écrit avec un W, c'est Fenwick.
Ouais, c'est Fenwick.
Okay. En plus, parce que son papa
et donc, est un Fenwick. Quand vous prenez un train, vous montez dans le wagon.
Bien sûr, en Wallonie,
essentiellement. Vous avez entendu ce qu'elle vient de dire?
Son papa, le papa d'Arthur, est auteur.
Mais oui, bien sûr, c'est le fameux.
Exactement, écrivain de théâtre.
C'est ça.
D'accord.
Qui a fait cette pièce
Thé à la menthe. Thé au citron, thé à la menthe.
Thé à la menthe ou thé citron.
Oui, voilà, thé citron.
Un carton, hein, ce truc.
Ah bah, les palmes de Monsieur Schulz.
Les palmes de Monsieur Schulz.
Il y a plein de Molière.
Bien sûr. Eh bien, il n'y a plus que vous maintenant, Patrice.
C'est Alex. Je ne suis pas seul.
Il y a
Fred Radix.
Il y a Fred Radix.
Fred Radix qui est là.
À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Le test à l'aveugle de Patrice Carmouze.
Alors Patrice, je rappelle que nous jouons pour faire gagner un séjour à Orcières-Merlette, n'est-ce pas ? Au club Bellambra, le Roc Blanc, avec location de ski et remontée mécanique incluse.
Ça, c'est
pour
bien,
cela, hein. Anne Barillo va jouer pour Adeline et moi je joue pour Gilbert.
Et alors, nous sommes avec Fred Radix, dit Lucifer, vous savez, qui est sur la scène du Grand Point Virgule, du mercredi au samedi, à 19h45, qui était déjà venu nous montrer ses talents. Alors, il va siffler.
Ça nous les faire entendre, surtout.
Il nous fait entendre. Mais enfin, quand vous sifflez, il faut. Voilà. Alors, il va siffler des musiques de films, il faut reconnaître de quel film il s'agit, et c'est chacun son tour. On commence par vous, mais c'est vrai que Régis peut vous aider. Alors, premier extrait, Fred, allez-y.
Ah bah oui. C'est le grand blond. Ouais.
Ah oui, le grand blond et le chausson noir.
Voilà.
Oui.
Bravo.
Bravo. Bravo. Bravo. Steve Robert, musique de Vladimir Cosma avec évidemment Pierre Richard.
Bravo.
Ouais, elle est connue celle-là. Oui. Alors celle-là, c'est pour Stéphane. Maintenant, c'est peut-être un peu plus difficile.
Je regarde.
Pourtant, elle est sifflée dans le film.
Toujours Pierre Richard.
Je peux vous donner des indices. C'est un film de Jean-Jacques Hano. Ça parle de football. C'était avec Patrick Devers.
Coup de tête.
Oui.
Oui.
Vous connaissez Coup de tête, vous?
Ouais. Elle est belle, hein.
Il y a eu un bon coup d'œil sur
tous les films sur le foot.
Ouais, vous les connaissez. Ça, ouais.
Musique de Pierre Bachelet.
1-0.
Comment vous dites 1-0, 3.
À mort l'arbitre.
3-0.
À mort l'arbitre.
À mort l'arbitre.
Stéphane, c'est votre prof Talbot qui vous a conseillé de faire des petits exercices comme ça avec les yeux sur les trucs de Patrice.
C'est fou, hein.
Je vous rappelle, Eric, que vous êtes dans mon équipe.
Oui, oui, mais bon, là, ça se voit.
Il est honnête. Un
maître
ou
l'autre, il nous explique. Ah, j'étais nul en maths. Ouais, mais bon, heureusement qu'on pouvait regarder la copie du voisin.
Ouais, bonne vue.
Alors, c'est pour vous, Anne. Et je vous donnerai un indice si jamais il faut.
Ça me fait penser à une publicité.
Non, c'est toujours une musique de Vladimir Cosma. Bah oui, c'est toujours...
Pierre Richard.
Le jouet. Et de pardon. Non.
La chèvre.
Ça raconte l'histoire d'une fugue. Ils poursuivent un...
La chèvre.
Non.
Les compères.
Oui.
Ouais.
Oui. Les compères, bravo. Non, mais... Alors là, c'est, tout à l'heure, c'était un film d'Yves Robert, c'était un film de Jacques Weber. Hein.
Heureusement que Fred a du souffle, hein, parce qu'on m'a eu du temps à trouver. Hein.
désolé.
Stéphane.
Ah oui, ça, c'est les petits.
Ben c'est les
schtroumpfs.
Oui.
Les
sept nains.
Blanche-Neige et les sept
nains. C'est bien Blanche-Neige qui chante à ce moment-là dans le film.
Oui, bien sûr, c'est pas les nains.
Ouais. C'est encore moins les schtroumpfs.
Oui, pour moi, c'est des...
Oui, c'est un bootleg. Blanche-Neige et les sept.
Ah, ça va pas facile.
On n'a que des durs.
De partout. Une musique d'Ennio Morricone.
Bravo quand même.
Pour Anne Barillot. Jean-Paul Belmondo.
Ah oui, oui, le
magnifique.
Un homme sur la ville.
C'est un type des services secrets qui se venge de l'État français.
Ah oui,
le professionnel.
Oui, ouais. Exactement.
Le professionnel. Bravo.
Bravo. On reconnaît le professionnel. 3-2.
Difficile. Ça.
Stéphane.
Nerf, ouais.
Ça, c'est assez facile, je pense.
Ah oui.
Bah oui.
Une histoire de soupe. Ouais.
Ah oui,
Et on met quoi dans la soupe? On met des choux. Donc ça fait
la soupe aux choux.
La soupe aux choux.
C'est un film. Mais là, il souffle aussi par le derrière, un moment, hein, dans ce film.
La denrée.
Pour le quiz pétomane.
Jean Giraud.
Mmh. Trois partout.
La denrée. Pour vous, Anne. Toujours Ennio Morricone, tiens.
Ah oui. Bon, alors, peut-être le bon, la brune.
Non.
Mon nom.
Avec Terence Hill et Henry Fonda.
Mon nom est personne.
Bravo.
Yes. 4-3.
Les gens qui nous écoutent, ils doivent nous prendre pour des dingues.
Ça fait un bout de temps, ça.
Mais non, c'est doux. Je trouve qu'on n'a jamais été aussi concentrés.
Ah bah oui. Et puis du coup, il n'y a pas de cacophonie. Hein,
formidable, Fred Radix.
Ouais, formidable.
Alors, à vous, Stéphane, tiens.
Oui. C'est James Bond, ça?
Non.
Mais oui.
Ouais, mais arrêtez de pomper, quoi.
Non, j'ai rien vu.
Bon, mais lequel, alors, attendez.
C'est lequel?
Vous pouvez tourner la page, Patrice, parce qu'on voit pas bien.
C'est
Demain ne
Pierce Brosnan et Sophie Marceau.
Demain ne meurt jamais.
Non.
Plus tard. Non, mais James Bond, c'est très bien. C'est Le Monde ne suffit pas.
Alors que la réponse,
Fred. C'est rien, j'avais donné un petit indice visuel.
Il m'a donné un indice visuel.
Ah, c'est pour ça.
C'est pour ça que j'ai dit, il a montré le revolver sur l'épaule. Donc bon, 4 partout.
Anne Parillot. Toujours Ennio Morricone, c'est un film avec Belmondo.
Il y a Peur sur la ville.
Oui, très bien. Bravo.
Bravo.
Alors, on va savoir si Stéphane égalise, et dans ce cas-là, on va faire un départage. Alors, attention, Stéphane, c'est à vous. Donc.
Prenez votre temps, Stéphane.
Ah bah oui.
C'est facile. Toujours Vladimir Cosma.
Rabbi Jacob.
Oui.
Wow.
Bravo.
Merci Alex.
Alors, là je vous demande beaucoup de concentration, Anne, parce que c'est le plus rapide entre Stéphane et vous. Personne ne vous aide.
On rappelle quand
c'est
même
le départage.
Qu'il y a des prix importants.
Il y a des prix importants à Orsières Merlette. C'est toujours à Orsières Merlette.
Il est cher.
C'est cher. Ouais. Allez,
Bellambra.
C'est horrible la pression.
Alors, la pression est terrible. Alors attention, soyez bien concentrés, vous êtes prêts?
On est prêts.
Fred, quand vous voulez.
Oh.
Le
pont, le pont, le pont.
Le pont de la rivière quoi? Oh. Non, la grande vadrouille. Non. L'autre.
Et
la
Jones, oui.
On l'a aidé. On l'a aidé. Oh, bah.
Et le pont, oh, le pont de la rivière. Vous avez raison de voir quoi pour lui faire à côté?
C'est de ma faute.
Qu'est-ce que vous...
C'est moi.
Voilà, c'est ça. J'ai confondu. Mais il faut être honnête, je ne reconnais jamais les sifflements, moi.
Mais le bravo, reste, le bravo, reste aussi.
Et mon chien non plus, d'ailleurs.
Alors, c'est
vrai. C'est
Adeline qui gagne.
Et ben c'est,
grâce à
Anne Parillot, c'est Adeline qui gagne. Pardon.
Et bravo à Fred Radic, je rappelle qu'il est devenu mercredi au samedi à 19h45 bravo, au grand c'est point virgule.
Merci Stéphane, mais je vous enverrai quelques enregistrements pour que vous puissiez travailler un peu à la maison.
Ah, oui, d'accord.
Révisez vos classiques.
J'ai révisé mes classiques.
Envoyez les réponses directement. Ah,
il n'a pas besoin d'un siffleur, il a déjà un souffleur.
Oh. En tout cas, le trou du siffleur. Allez voir le lauréat au théâtre. Montparnasse. Merci beaucoup Anne Parillot de vous être prêtée à nous passer ici et d'être venue nous voir. Bravo. Avec Arthur Fenwick, Marc Fayet, Françoise Lépine, Jean-Michel Lamy et Adèle Bernier. Et c'est au Théâtre Montparnasse. Voilà.
Merci beaucoup. Merci.
Demain, nous serons avec Jean-Luc Reichmann. Et voilà, bonne journée à l'écoute d'RTL. Je rappelle, hein, Fred Radic, vous l'avez dit, il est au grand point virgule. Hein, mercredi au samedi à 19h45. Demain, Jean-Luc Reichmann. Merci à tous d'avoir suivi RTL, il est midi et demi.
Vous écoutez RTL.